ondes 89.7, une heure de babil et grognement avec Alias. David Olivier est l'un des quelques rares précurseurs qui fit connaître en France le mouvement antispéciste, et ce depuis une quinzaine d'années maintenant. Et en 15 ans, que de chemin parcouru, une revue, les cahiers antispécistes, des listes de discussions sur Internet, la Veggie Pride, une marche annuelle à Paris, rassemblant les végétariens qui le sont pour les animaux, de plus en plus de plats cuisinés 100% végétal dans les supermarchés, et surtout un concept qui commence à être connu du grand public et regardé différemment. Les personnes se souciant de la condition animale ne sont plus considérées unanimement comme d'aimables plaisantins. Tout cela est dû à la patience opiniâtre de quelques personnes, dont David Olivier, l'un des membres fondateurs des cahiers antispécistes en 90 ou 91, l'un des instigateurs de la Veggie Pride il y a 3 ou 4 ans, un fatigable conférencier et auteur d'incalculables articles. Heureuse de t'accueillir, David. Bonjour. Je pense que pour faire au plus simple possible, je crois qu'il faut rappeler d'abord les notions d'antispécisme et de spécisme, bien entendu, puisque ça n'est pas encore bien connu.
Oui, l'antispécisme, c'est un mot qui est formé comme antiracisme ou antisexisme, c'est-à-dire contre une discrimination. L'antiracisme, c'est contre la discrimination raciste. Discrimination en fonction de la race, l'antispécisme, c'est contre la discrimination en fonction de l'espèce. Qu'est-ce que c'est que cette discrimination en fonction de l'espèce ? L'espèce en question, c'est l'espèce, comme quand on dit l'espèce humaine, c'est-à-dire c'est le fait que nous faisons partie de l'espèce humaine, d'autres êtres, les chats, les chiens, les cochons, les poulets font partie d'autres espèces. Nous sommes tous des animaux. Et l'antispécisme dit discriminer entre les intérêts des cochons et des êtres humains, c'est une discrimination arbitraire. C'est une discrimination que l'on fait en faveur des intérêts des individus de notre propre espèce, qui sont des êtres humains, en considérant que les intérêts des cochons ne comptent pour rien du tout. Les intérêts des cochons qui sont élevés, qui sont tués, pour le simple plaisir de manger leur chair. On ne ferait jamais ça à un être humain. Les êtres humains sont considérés comme protégés par un ensemble de lois et de concepts, les droits de l'homme. On considère que ces choses-là ne comptent absolument pas pour les cochons. Donc l'antispécisme, c'est le point de vue qui dit que cette discrimination-là est aussi arbitraire que la discrimination raciste, et au contraire qu'il faut lutter, qu'il faut promouvoir l'idée d'égalité animale, c'est-à-dire que tous les animaux sont égaux, tous les êtres qui ont une vie, qui ont une sensibilité au sens de pouvoir ressentir des choses, de pouvoir ressentir la souffrance, le plaisir de vivre, tous ces êtres qui ont des intérêts, donc leurs intérêts doivent être comptés de façon égale, doivent être pris en compte de façon égale par la société, par chacun de nous. Nous ne devons pas considérer que simplement parce qu'un être n'est pas de notre espèce, son intérêt à vivre et à ne pas souffrir ne compte pour rien.
Oui, ça a l'air simple. On se demande même pourquoi ça bute tellement.
Eh ben, je pense que c'est une idée qui est assez simple. Et bon, tu as dit que c'est une idée qui a été introduite en France à partir des années 90. La fondation des cahiers antispécistes en France, c'est en 1991. C'est une idée qui, en fait, s'est répandue dans le monde, dont on a très peu entendu parler en France avant 1990, avant les années 90, mais ça s'est répandu dans le monde à partir des années 70, à partir de 1975, quand Peter Singer, un philosophe australien, a écrit un livre qui s'appelle « La libération animale », qui a été traduit depuis en France, et donc, où il a dit « tous les animaux sont égaux, il n'y a de la même façon que nous devons lutter pour la libération des femmes, la libération des Noirs, nous devons aussi lutter pour la libération des animaux, de l'oppression que nous leur faisons subir ». En même temps, je pense que c'est une idée qui ne date pas que des années 70. Les années 70 étaient une période de grand progrès social, où il y avait des luttes, c'était suite aux années turbulentes des années 68 et tout ça.
Il y avait des remises en cause.
Voilà. Mmh. Il y avait beaucoup de remises en cause, les remises en cause des rôles sexuels, les remises en cause de, aussi des luttes anticapitalistes. Tout cet élan-là, disons que c'est dans cet élan-là que s'est fait cette formalisation de la libération animale par ce philosophe australien, Peter Singer. Mais je pense que l'idée d'égalité animale, c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Il y a des peuples, il y a 2000 ans, où il y avait une interdiction de consommation des animaux. Il y a des passages, pour ne citer que ce texte-là, puisqu'il nous est resté, de l'Ancien Testament, de la Bible juive, qui disent clairement, mais qu'est-ce que nous en savons, que nous sommes différents des autres animaux, que notre âme aurait quelque chose de plus, nous ne sommes que de la chair comme eux, et nous retournerons à la terre, à la poussière, comme eux, après notre vie.
Oui, puis ce qu'il y a de troublant, c'est que c'est nous qui affirmons cette différence et cette supériorité. Donc on est un petit peu jugé parti là-dedans.
Ah, absolument, oui, on est jugé parti à peu près comme les Blancs qui affirmaient aux États-Unis au siècle dernier que les Noirs n'avaient pas de droits.
Ben oui, de même, tu dis que ça remonte loin, effectivement, mais il y a un texte de Plutarque qui circule aussi là-dessus. Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi ben, ça m'est échappé.
Oui, oui, le végétarisme était une question qu'on se posait dans l'Antiquité grecque, qu'on se posait dans beaucoup de civilisations.
Oui, je voulais dire aussi que le fait que ça fasse rire beaucoup encore de gens qui ne se sont pas posé la question, ça ne doit pas être impressionnant, parce qu'en fait, toutes les luttes ont fait rire au départ. Hein. Tu parles de la lutte des Noirs, au début, ça a commencé par faire rire, par ne pas être pris au sérieux. La lutte des femmes a commencé par faire rire, on parlait de suffragettes en jupon, la lutte des homosexuels, n'en parlons pas, là, c'était carrément on se claquait les cuisses. Donc on commence toujours par se raccrocher à ces anciennes conceptions et puis à rire des gens qui remettent en cause une oppression. Je pense que c'est classique, non ?
Oui, je crois que c'est extrêmement classique. En même temps, c'est une arme très, très puissante, parce que c'est vrai que c'est extrêmement désagréable de voir un grand nombre de gens qui, au lieu de chercher à répondre à des arguments, rigole, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir que ce mouvement existe depuis très longtemps, qu'il a ses lettres de noblesse, disons, même si ça ne prouve rien, le fait que 100 000 personnes pensent une chose ne prouve pas que cette chose est vraie. Mais le fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas seul dans le monde aussi, de savoir qu'il y a des mouvements en Angleterre donc, qui se sont développés, qui se sont développés dans pas seulement dans les cercles philosophiques. Je veux dire, à partir du moment où Peter Singer a publié son livre La libération animale, ça a atteint l'ensemble des universités, l'ensemble des personnes qui essayent de réfléchir, de justifier notre comportement d'un point de vue un peu académique, mais ça a atteint aussi Bon, le peuple, disons que les gens en Angleterre de la classe ouvrière étaient au départ un petit peu la base de ce mouvement, le mouvement du Front de Libération Animale en Angleterre à partir des années 70 était un mouvement ouvrier et populaire.
Ça, non, on ne le sait pas du tout, ça.
On ne le sait pas. Je pense qu'en France, il y a une espèce d'opacité. Je ne pense pas que ça soit une censure. Il n'y a personne qui a décrété qu'en France, on ne doit pas parler de ces choses-là. Mais en France, on pense plutôt que nous avons gagné l'égalité, et nous avons gagné l'égalité au-dessus des animaux. On nous cite très très souvent l'idée que la chasse serait une conquête populaire, c'est-à-dire qu'à la Révolution française, le peuple aurait gagné le droit d'opprimer les animaux autant que les nobles. Et les gens sont fiers en France de cette conquête-là. Alors que l'Angleterre, qui mine de rien est encore une société aristocratique, enfin, dans ses principes, au moins, il y a une noblesse en Angleterre.
Ouais, c'est héréditaire. Une famille royale. Ouais.
Pardon ?
Il y a une famille royale,
oui,
etc.
Une famille royale, ouais. Des choses qui nous font rire. Mais en même temps, ça marque le fait qu'en Angleterre, les gens ont encore la conscience qu'il y a une classe qui, simplement parce qu'elle est née dans la noblesse, a un mépris, une morgue pour les ouvriers, pour les gens de la classe populaire. Et les gens se sentent beaucoup plus facilement qu'en France, solidaires des animaux. Mm-hmm. Ils comprennent très bien
qu'ils sont opprimés les uns et les autres, quoi.
Voilà, ils sont garçons d'écurie, comme les chevaux sont à l'écurie.
Et tout ça étant complètement méprisé par les classes supérieures.
Voilà, par les classes supérieures qui, eux, se réclament des valeurs de la noblesse et ainsi de suite. Donc, dans les pays anglo-saxons, et pour d'autres raisons culturelles aussi, enfin, je ne sais pas exactement, mais c'est clair qu'en France, il y a une espèce d'opacité par rapport à ces idées-là, ces idées ont du mal à s'implanter en France.
Il y a une frénésie aussi culinaire sur la tradition du foie gras, etc., qui est monumentale, hein, qu'on a du mal à retrouver dans d'autres pays, heureusement pour eux.
Oui, et une fierté par rapport à ça. Ouais. Il y a des intérêts économiques, évidemment, par rapport à ça. Mais aussi une fierté, l'image de José Bové comme étant un peu notre icône nationale, qui est éleveur, qui fait les bons produits de chez nous. Le foie gras, enfin lui il fait pas du foie gras, mais il fait du roquefort, et toutes ces choses-là sont associées un peu par opposition à la méchante nourriture anglo-saxonne. Donc je crois qu'il y a beaucoup de traditions, mais en même temps j'ai le sentiment qu'à partir du moment où les choses commencent à ressortir comme étant des traditions, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre justification pour nos comportements que de dire c'est des traditions, quoi.
Ah oui, il y a des mots clés comme ça. Après, on n'a plus rien à dire. On n'a vraiment plus qu'à la fermer. Il y a des mots comme tradition ou rentabilité. Bon, ben, il suffit de placer ça dans la conversation et puis c'est terminé. Tout est dit. On peut pas.
Oui, en même temps, c'est un peu la dernière réponse qu'on trouve, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que les gens sentent bien qu'ils n'ont pas d'autre chose comme réponse que ça. Quoi.
Bah oui, bah c'est un peu comme le rire qu'on évoquait, quoi. Ça ne prouve pas qu'on ait des arguments. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après sur le 89.7.
La suffisance a explosé comme une bombe. La terre est rendue à l'animal. L'on va enfin pouvoir parler d'humanité. Adam et Ève, rien qu'un mauvais souvenir. Le lierre grimpe le long des immeubles. Les arbres bâtissent des forêts, les meutes de chiens rongent nos squelettes, les abattoirs sont devenus des monuments aux morts. En chacun de nous sommeillé un fasciste, tel aurait pu être notre épitaphe. construit pour les hommes, un monde blanc construit pour les blancs, un monde fabuleux, fasciné d'armes à feu, un monde de règles sanglantes qui ne vulera plus jamais. Le danger, il venait du berger, car l'homme est un homme, un animal raté. Il n'y a plus rien à faire, pas de machine pour aller arrière, mais c'est sûrement mieux comme ça, de toute manière.
Post par automatique, un morceau un petit peu provoque l'humanité disparue de la surface de la Terre. Et comme il est dit dans le morceau, les abattoirs sont devenus des monuments aux morts. Donc certains, certainement qu'ici en France, on ne se reconnaît pas beaucoup dans cette image. Ceci dit, bon, je trouve que même ici, les choses bougent. Comme je le disais un peu dans l'intro, il y a quand même eu pas mal de progrès en peu de temps, hein, je pense.
Je pense que les concepts commencent à être un petit peu connus. Je pense aussi que les gens aujourd'hui commencent à penser un petit peu aux animaux quand ils les mangent, commencent à peut-être avoir une certaine conscience de l'existence des végétariens, commencent à savoir qu'on peut être végétarien, déjà, ce qui est important à dire, ce qui est d'autant plus important à dire qu'on a aujourd'hui un discours d'un certain nombre d'organismes qui essayent de nous convaincre qu'on ne peut pas être végétarien, qu'on peut encore moins être végétalien.
Oui, justement, je voulais un petit peu évoquer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, végétarien, vous ne voulez pas faire tuer des animaux, donc vous ne les mangez pas, ça se comprend. Mais pourquoi être végétalien? Ça ne tue pas de prendre le lait ou les œufs, ça leur fait pas de mal. Pourquoi vous allez jusque-là? C'est de l'extrémisme, ça les tue pas.
Oui, au début, quand j'étais végétarien, c'est un peu le raisonnement que j'avais. C'était, je mange plus les animaux, je les fais plus tuer, maintenant je vais manger le lait et les œufs parce que il n'y a pas besoin de tuer les animaux et je ne suis pas responsable forcément de tout ce qui arrive dans le monde et de la façon dont on traite les animaux. Mais je pense qu'on a quand même une responsabilité quand on sait par exemple que pour faire un œuf, une poule met un peu plus de 24 heures en moyenne. Quand on sait que ces 24 heures-là sont 24 heures d'une souffrance intense, où la poule n'a aucun, la possibilité d'avoir aucun plaisir dans sa vie, n'a même pas la possibilité d'étaler ses ailes, où elle est dans un état de danger permanent, puisqu'elle est enfermée dans une cage avec 4 ou 5 autres poules qui sont pour elle des menaces, parce que c'est pas normal pour une poule d'être enfermée de façon aussi serrée. Donc pour elle, c'est un stress permanent. Elle a des besoins qui sont complètement frustrés, comme le besoin d'intimité pour pondre, qui est un besoin extrêmement fort chez les poules. Ces poules-là sont souvent malades, souvent meurent sans que personne ne les soigne, évidemment, puisqu'on ne va pas se mettre à soigner chaque poule, à être attentif à chaque poule dans un élevage de 10 000 ou 50 000 poules.
On les voit même pas. Hein.
Bon, on les laisse mourir et on évacue leurs cadavres périodiquement. Et c'est tout. Donc, vivre dans des conditions d'une énorme souffrance. Et je pense pas que le plaisir que je peux avoir de manger un œuf soit aussi important que ça justifie de faire subir une telle chose, à une telle souffrance à un autre être. Si tant est que ça justifie que j'ai le droit de faire souffrir, faire subir une souffrance quelle qu'elle soit à un autre être, simplement pour mon propre plaisir. Mais là, la disproportion me paraît tellement énorme que je pense que vraiment, les œufs en batterie sont une horreur et sont à proscrire comme la viande.
Mais il y a encore des gens qui se soucient quand même un peu des animaux, qui seront d'accord avec cette horreur-là. Et qui disent, bon d'accord, on n'achètera plus d'œufs en batterie, mais pourquoi ne pas acheter d'œufs bio, etc.
Disons que les œufs bio sont certainement, bio, disons les œufs qui ont un label élevé en plein air, font certainement moins souffrir les poules. Mais je pense qu'aujourd'hui, étant donné que les poules sont dans des conditions où elles n'ont aucun droit, où elles ont, je dirais, encore moins de droits que n'en avaient, par exemple, les esclaves noirs aux États-Unis au XIXe siècle, pendant toute la période d'esclavage. Elles ont encore moins de droits. Elles ont une valeur marchande encore plus faible que ces esclaves-là. Elles sont invisibles encore plus que ces esclaves-là. Elles ont encore moins la possibilité de se défendre que ces esclaves-là. Faire n'importe qui est employé, par exemple, sait très bien que s'il était privé de tous ses droits, privé de syndicats, eh bien, il ne faudrait pas compter forcément sur la bienveillance du patron. Là, les poules qui sont élevées même en plein air, les garanties sont extrêmement faibles par rapport à la manière dont on les traite. Et de fait, très souvent, c'est juste la possibilité qu'elles puissent sortir 5 minutes, un quart d'heure par jour. Bon, je n'ai pas exactement les détails, mais c'est mieux que les élevages en batterie. Mais je pense vraiment que même dans ce cas-là, ça ne se justifie absolument pas de les réduire en esclavage comme ça et de les traiter de cette manière-là. Il y a aussi la question du lait. Bon, c'est une question aussi, la production du lait, elle implique de prendre le lait qui normalement servirait à nourrir un veau. Elle implique de séparer le veau de sa mère immédiatement après la naissance, enfin, je crois que c'est 24 heures après. Ça implique une énorme souffrance pour la mère qui souffre comme les mères de beaucoup de mammifères, de la séparation de leurs petits, comme les mères humaines, qui ont ce sentiment de priver de cette relation-là. Le veau qui est comme ça porté dans la vie, qui est placé dans un environnement où il n'a absolument aucun contact avec sa mère, où il n'a aucun contact avec un autre animal, et où on lui donne une alimentation qui est extrêmement mal adaptée à lui. Donc c'est un des élevages les plus cruels. Et la production de lait aussi dépend de cet élevage, de la production des veaux. Donc là encore, je pense qu'il est justifié de renoncer au lait. Maintenant, le fait de renoncer au lait et aux œufs, ça s'appelle le végétalisme. Je pense que c'est justifié d'être végétalien Mais c'est clair que la plupart des gens passent par une étape de végétarien.
Oui, oui, ça se justifie, ça peut se comprendre.
Oui, ça se comprend, d'autant plus.
C'est l'évolution des idées et puis du comportement. Bon, c'est pas toujours très très facile de changer du jour au lendemain de vie, quoi. Donc, c'est bien de faire par palier.
Oui, et ça a une portée symbolique aussi d'être végétarien. Que n'a pas le fait d'être végétalien qui est... je dirais plus abstrait, il faut penser aux conditions d'élevage et tout ça. Être végétarien, ça veut dire non. Je veux dire, ça veut dire, c'est le non que disent beaucoup d'enfants quand ils apprennent que la viande qu'on leur met dans l'assiette, c'est le veau qu'ils ont caressé dans le pré. Le veau, la vache.
Le lapin.
Voilà, c'est le lapin, c'est du lapin. Les parents qui disent à leur enfant, mange du lapin, mon lapin. Ça arrive, ce genre de collision dans les phrases. Les enfants comprennent très bien ce que c'est la viande. Et ce côté symbolique, je pense qu'il est extrêmement important. C'est pour ça, par exemple, que la Veggie Pride, on dit c'est la fête des végétariens. On ne demande pas aux gens d'être végétaliens.
Oui.
Pour ça, on dit végétariens, c'est les gens qui refusent, qui ont fait ce pas symbolique extrêmement important, de dire non, je ne veux pas participer à cette violence envers les animaux.
Et bien souvent, quand il s'agit de végétariens convaincus, qui sont réellement soucieux des animaux, à force de l'accumulation d'informations, de discussions, etc., ils passent le pas d'être végétalien à plus ou moins long terme. Ça arrive, quoi. Hein,
parce qu'au départ, ils ont peur peut-être aussi de manquer de protéines animales ou des choses comme ça, puisqu'il y a une propagande pour dire que... Moi, je m'entends souvent dire, mais comment est-ce qu'on peut être végétalien? On a besoin de protéines animales. Moi, je dis, je suis végétalien depuis 15 ans. Quand est-ce que je vais en mourir? Bon.
Puis on n'est pas à la télévision, on est à la radio, mais je peux dire que, tu as un physique de bonne santé, quoi, qui n'a pas... pas l'air particulièrement...
Oui, c'est Georges Bernard Shaw, un écrivain anglais, à qui on prévoyait, quand il avait 20 ans, on lui avait dit, si tu es végétalien, tu vas mourir. Et bon, il est mort 70 ans plus tard, il devait avoir plus de 90 ans. Bon, mais il est effectivement mort.
Oui, ça c'est vrai que végétalien ou pas, je pense qu'on va mourir. Mais donc... Eh bien, on va peut-être repasser un autre morceau sur le 89.7 de Radio Boomerang, Babil et Grognement.
Guys, a great concert, but once you started showing all those pigs and cows getting killed, you bummed me out a little bit. I don't think you should do that. Right in the middle of the concert, I started dancing and stuff. All of a sudden, you started showing all these animals getting killed, and I got really bummed out, and I couldn't dance anymore. You know what I mean?
Somebody's asking you if you are vegetarian. Est-ce qu'ils sont végétariens?
Yes, we are.
Give me the mic. This is. We are here to stand for animal rights, you know, because I like animals.
Vegetarianism is about peace. However, the time that we live in isn't very peaceful. So, basically, what I want to say is, if you're into vegetarianism, let people know you can't just be passive and peaceful and go, oh, I'm down for animal rights, I'm a vegetarian, stuff like that. Show people what you believe in, and throw a brick through a window once in a while.
Charles op de LP van Consolidate overduidelijk is geworden. Ze hebben geciteerd uit Carol Adams' boek The Sexual Politics of Meat. Willen mensen niet weten wat ze eten?
Those of you that hate vegetarians and go against those who don't eat meat, I work as a butcher. Wouldn't you really like to know what's in your meat?
Just think about using and eating animals. You are murder. If you eat animals, you are murder. Thank you.
Animals' lives and people's lives are the same. Don't put people or animals through suffering for yourself. It's selfish.
C'est assez facile à faire. Il suffit de pas manger les animaux.
Sorry, I just want to call on you just not stop eating meat, but stop drinking milk and stop using cheese, because it's suffering for little animals. Milk is for little cows and not for human beings.
So I told her, please go and bite her, eat him like this.
I think it's great that y'all are like promoting vegetarianism,
But I think that when you inform people, you should also let them know that the dairy industry is just as bad as meat.
I'm a vegetarian.
Yeah.
Pop, that's exactly this kind of shit. Because I think you have to think about vegetarianism.
Yeah.
I think mass production of meat is the most horrible thing. It's like concentration camps.
Yeah.
I don't want that.
Consolidated Veggie Beat Manifesto, un titre qui parlera tout seul. Oui, on parle essentiellement de végétarisme là, depuis le début de cette émission. Il faut dire qu'il y a, bon, la plupart des gens sont quand même assez choqués de certaines cruautés comme la chasse, la corrida ou la cruauté envers les animaux domestiques. Comment ça se fait qu'ils s'émeuvent si peu de la cruauté envers les animaux qu'ils mangent eux-mêmes ?
Oui, je sais pas. Je suis content que les gens s'émeuvent de la corrida et de la chasse, parce que ça veut dire que au moins sur ces sujets-là ils ont les bons réflexes. Concernant la viande, bon, j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi il
percute cette espèce pas, ouais.
D'impasse. Je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de profondément ancré dans notre culture qui est presque de l'ordre de l'interdiction, c'est-à-dire que dans la plupart, je dirais, des cultures humaines, la nourriture fait l'objet d'un certain nombre d'interdictions, d'interdits, qui sont souvent classés comme étant des tabous, c'est-à-dire on pense souvent que c'est des choses irrationnelles, mais en même temps, si on regarde la culture juive, on se rend compte que ces interdictions, elles concernent toutes les animaux. Les règles rituelles de juives, elles ne concernent pas la façon d'égorger une carotte. Elles concernent la façon d'égorger un mouton. Et c'est censé être pour que le mouton souffre le moins possible. Les règles juives, les règles islamiques concernent les animaux. D'autres cultures ont des règles, ont des problèmes avec le fait de manger les animaux. Le christianisme est né à partir d'une injonction qui est dans les évangiles, enfin dans le Nouveau Testament, qui est à un certain moment, Pierre a une vision de Dieu qui lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Et il y a eu une espèce d'ordre du christianisme qui est de dire au niveau de la nourriture tous les tabous anciens sont abolis, tu ne dois plus poser de questions par rapport à la nourriture, et d'une certaine façon le christianisme a inventé il est interdit d'interdire, il est interdit d'interdire quoi que ce soit au niveau de la nourriture, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de manger tout sans discrimination. Il y a eu des dissidents chrétiens, disons ce qu'on appelle des hérétiques, les manichéens, les cathares, qui étaient brûlés parce qu'ils refusaient de manger les animaux. Donc c'était pas quelque chose de neutre. Aujourd'hui, on considère, on voit vraiment l'alimentation comme quelque chose de complètement neutre ou qui ne concernerait que des questions de santé, mais qui serait interdit de poser des questions éthiques par rapport à l'alimentation, très spécifiquement. Si je torture un chien dans la rue, je vais en prison. Les gens vont s'arrêter, vont me...
Il y a des lois contre ça.
Oui, il y a des lois contre ça. Si par contre je sors d'une boucherie avec une tranche de viande, aucun policier va m'arrêter. Il y a des actions qu'on a fait récemment, que c'est Yves Bonnardel à Lyon qui a lancé ça, mais ça se fait dans beaucoup de villes, qui s'appellent les actions sans des bêtes, où on va dans la rue... On va souvent devant des boucheries et on répand du faux sang, c'est-à-dire un mélange d'eau et de colorant rouge par terre pour simplement marquer que ce lieu est un lieu sanglant. on ne le met pas particulièrement sur la boucherie, on ne dégrade pas particulièrement le
lieu. Sûr. C'est on rappelle que ce n'est pas anodin, une boucherie ou une poissonnerie, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé des poissons. Et il y a même des végétariens qui mangent des poissons et on entend souvent dire « Oh, mais les poissons ne ressentent pas la douleur, etc. »
Voilà, on a l'impression qu'ils ne ressentent pas la douleur. Et les gens, quand ils voient ce sang répandu dans la rue, ils sont choqués, ils disent « Vous allez traumatiser les enfants. » Et les enfants en question, ils sortent avec leur enfant à la main, en le tenant par la main, de la boucherie. Ils ne se posent pas la question de pourquoi les enfants ne seraient pas traumatisés par tout ce sang qu'ils voient dans la boucherie. Mais le sang qu'il y aurait par terre devant la boucherie est censé être traumatisant.
Oui, la question. Il ne faut pas leur dire, quoi, ce que c'est vraiment, quoi, c'est ça.
Et les enfants, souvent, sont traumatisés, ont ce sentiment de traumatisme par rapport à ce qu'ils voient dans la boucherie, mais... Il y a une violence, je pense qu'il y a une éducation qui fait que les enfants les obligent à oublier ces choses-là. Oui, par rapport aux poissons, j'ai parlé des conditions d'élevage des poules. Enfin, il y a l'ensemble des animaux qui sont élevés dans des conditions de très grande souffrance, sauf quelques exceptions. Les cochons souffrent pendant des mois et des mois avant d'être abattus. Il y a à peu près 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. Les poissons sont peut-être 10 fois plus nombreux. Les poissons, la plupart des poissons ne sont pas élevés, donc au moins vivent une vie de liberté avant d'être pêchés. Par contre, il n'y a même pas des lois minimum sur la façon dont on va les mettre à mort. C'est-à-dire que très souvent, les poissons sont attrapés dans des filets. Ces filets vont être traînés sur des kilomètres et des kilomètres. Les poissons vont s'accumuler au fond du filet, pressés les uns contre les autres. Ils vont asphyxier lentement. Ils vont souvent être ramenés à la surface, alors que c'est des poissons de fond, puisque de plus en plus on pêche de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et donc, ils sont ramenés à la surface. Un poisson qui est ramené à la surface, il éclate. Enfin, ça dépend des espèces de poissons, mais très souvent, ils ont les yeux qui sortent des orbites, parce qu'ils ont des poches de gaz, des poches d'air à l'intérieur d'eux, qui sont décompressées lors de la remontée. Et de la même façon qu'un être humain, il y a des problèmes de décompression quand on remonte trop vite. Ces poissons-là meurent une agonie qui peut durer des jours, des heures et des heures, et même des journées entières.
Mais il n'est pas rare de voir des poissons vivants à l'étalage des poissonneries, hein. On voit même dans les supermarchés, on va devant l'étalage des poissons et on en voit qui continuent à essayer de trouver, enfin pas de l'air justement, mais qui ouvrent la bouche. Mais j'en ai vu, je peux affirmer que j'en ai vu, quoi. C'est quand même dans une indifférence globale.
On peut se demander ce qu'ils peuvent ressentir dans ces conditions-là. Ou les crabes, ça j'en ai souvent vu, on voit des... Et les gens, effectivement, sont indifférents. Ils ne se posent pas la question de ce que ces animaux peuvent ressentir. En même temps, je pense que tout le monde sait que ces animaux ressentent des choses. Mais c'est comme s'il fallait faire comme si non, comme s'ils ne ressentent rien, comme si c'était une autre catégorie. Un enfant dont on verrait qu'il souffre comme ça, on interviendrait, on essaierait de faire quelque chose, enfin j'espère, la plupart des gens... Mais un poisson, eh ben non, on n'a pas le droit de le faire, c'est de la nourriture. C'est quelque chose de très bizarre, j'ai pas vraiment d'explication.
Je vais passer un morceau optimiste sur quelqu'un qui décide un beau jour de ne plus travailler dans un abattoir. Dominica.
La chair souple et les abats, et l'animal sur lequel il se penche et fait ce que sait faire son bras. Il aimerait faire autre chose qu'abattre. Ben disait pareil autrefois, quand après 6 heures ils rentraient ensemble avant d'essayer d'oublier tout ça. Ils allaient boire et ils sentaient leurs jambes fléchir, et ils voyaient leurs bras glisser de la table et tomber la cendre par terre. Mais ils n'oubliaient pas. Le lendemain, à nouveau, dans le monde, des cartilages et des abats, ils n'attendaient qu'une chose, que le soir tombe, et ne voulaient penser qu'à ça. Le soir tombe, que le soir tombe, qu'il soit. On peut faire une chose longtemps sans trop y penser, et un jour va savoir pourquoi. On se voit faire et on ne peut plus supporter de n'avoir su faire que ça de ses doigts. Ainsi un jour, peine à sembler hésiter, tandis qu'il travaillait son bras, est retombé sur l'étal, il s'est figé. Il a dit: c'est assez pour moi. Depuis, l'autre rentre seul et s'est promis d'arrêter lui aussi bientôt, de changer sa vie, d'en faire autre chose. Mais pas maintenant, c'est trop tôt. Des camions arrivent, des bêtes en descendent, précipitamment en voilà une qui vient à lui, sur elle il se penche et fait ce que sait faire son bras. Le soir tombe, que le soir tombe, qu'elle, qu'il soit.
Babil et grognement sur Radio Boomerang 89.7. On parle d'antispécisme avec David Olivier, et puis on arrive au dernier quart d'heure de l'émission. Donc je voulais évoquer pas mal de choses qu'on peut, où on peut retrouver ces idées d'antispécisme, quoi. Les cahiers antispécistes, la manifestation Vegipride, peut-être des sites ou des listes sur Internet. Enfin, qu'aurais-tu à nous conseiller, à commencer par les cahiers antispécistes, les plus anciens et les plus complets, je pense.
Oui, donc les cahiers antispécistes, c'est une revue qui existe depuis donc 1991, qui paraissait une époque tous les 3 mois. Maintenant, c'est beaucoup plus irrégulier. On essaye de tenir tous les 6 mois. L'adresse de la revue, c'est 53 rue du Pont Saint-Jacques, 63 000 Clermont-Ferrand. On peut s'abonner. On peut aussi aller sur le site web, qui est donc cahier cahier-antispéciste sans accent, donc au pluriel, cahier comme des cahiers, et antispéciste antispecistes .org. Donc, où il y a la plupart des textes des numéros qui sont parus. On n'est pas tout à fait à jour avec les derniers numéros, mais bon, il y a aussi les conditions d'abonnement qui, je ne connais pas exactement, mais bon, ça a changé récemment en plus. Donc, on peut aller sur le site web ou écrire donc, à cette adresse-là. Il y a aussi, parmi les choses à dire, donc, la VG Pride, qui est une manifestation qui n'implique pas forcément d'être antispéciste, parce que l'idée de l'antispécisme, c'est une idée assez radicale d'égalité animale. La Veggie Pride, ce qu'on dit simplement, c'est toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont ce réflexe assez simple et basique, je dirais, de dire non, cette violence envers les animaux, je ne la considère pas comme justifiable, je refuse de manger les animaux, je refuse de manger la viande par souci des animaux. Toutes ces personnes-là donc sont conviées à cette manifestation qui a lieu tous les ans au mois de mai. Cette année, ce sera le 15 mai prochain, donc à Paris. Le lieu n'est pas encore fixé. Les informations sont sur le site www.vegipride, donc V-E-G-G-I-E-P-R-I-D-E, donc sans tirer, .org. V-E-G-G-I-E-P-R-I-D-E.org. Voilà, pour cette manifestation-là, c'est une manifestation où on parcourt un petit peu la ville de Paris, on essaye de se faire voir. C'est la troisième année, ça va être la quatrième même manifestation cette année. Les années précédentes, on a eu 500 personnes à peu près qui sont venues, ce qui est quand même un minimum un succès. On essaye de montrer que le végétarisme et le végétarisme pour les animaux existent. On a eu une belle publicité l'année dernière, une double page dans Libération qui a fait un reportage sur cette Végipride et d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui décolle et qui est ouvert à toute personne végétarienne pour les animaux. Pour s'informer aussi, il y a des listes de discussions sur Internet. Bon, c'est toujours un petit peu difficile de donner les adresses Internet. Il faut toujours les épeler. Mais il y a une liste de discussions qui s'appelle Éthique animale. Donc sur le grand site de forum de discussion qui est Yahoo Groups. Donc Éthique animale, il faut aller sur yahoogroup.fr pour avoir le site en français. Donc c'est yahoogroupes.fr. On va sur ce site-là et on cherche la liste qui est éthique animale, donc comme éthique, mais sans le E, donc E-T-H-I-Q-U-A-N-I-M-A-L. Donc cette liste-là, qui est une liste de discussion, qui n'est pas une liste spécifiquement antispéciste, mais où on peut rencontrer, discuter avec d'autres personnes qui se posent ces questions-là. Il y a aussi une autre liste, qui est la liste végétarien, sur yahoogroup.fr, toujours le même endroit.
Je voudrais aussi signaler quelques livres qu'on peut trouver. Hein. Je vais soit très facilement, soit j'indiquerai comment. Et puis, si tu en as d'autres que j'oublie, surtout rappelle-les-moi. Bon, bien sûr, La libération animale de Peter Singer chez Grasset. S'il est loisible de manger cher de Plutarque, que je disais tout à l'heure, aux éditions La Plage. Un livre récent de cette année, Le végétarien sans peine de Gabriel Berthaud, aux presses du Châtelet, qui est plein d'humour en plus, ce qui ne gâte rien. Alors, il y a également énormément de choses aux éditions Tain Imparti, dont un digeste du livre de Peter Singer, ça s'appelle L'égalité animale expliquée aux humains, et c'est un résumé qui suffit pour bien comprendre la question, quand on n'a pas envie de se taper un gros volume. Il y a Darwin, une révolution à venir, avec des textes d'Estiva Reus, James Rachels, Yves Bonnardel et un certain David Olivier, des mêmes auteurs également, Luc Ferry ou Le rétablissement de l'ordre. Et puis au début 2004, les éditions annoncent une brochure consacrée aux poissons, Donc le tout aux éditions Tain Parti, 20 trucs à Vennes, 69007 Lyon, ou Tain, T-A-H-I-N, point, Parti, P-A-R-T-Y. Alors, @prix.fr. Et puis, on n'a pas eu le temps de parler de la nature, de l'écologie, du mythe de la nature, mais si ça vous intéresse, je vous recommande aussi un petit ouvrage qui s'appelle « Dame Nature imitée ». C'est de Clémentine Guyard aux éditions Carobella ex Natura, 12 rue du Gazomètre, 69003 Lyon, Carobella, C-A-R-O-B-E-2-L-A, @free.fr. Oui, je crois qu'on n'a pas totalement le temps de parler des différences de l'antispécisme avec la défense animale ou avec le mouvement écologique. Vraiment, si tu peux nous dire ça en quelques tout petits mots.
Je voudrais juste mentionner un site web intéressant aussi, où il y a pas mal de choses intéressantes, qui est interdit.net. On peut chercher les textes d'une certaine Alias.
Effectivement.
On trouve beaucoup de choses intéressantes sur l'antispécisme, le véganisme, c'est-à-dire le végétalisme, et sur d'autres sujets.
Et puis peut-être aussi d'ici un petit moment, on pourra retrouver cette émission sur un site, mais ça, peut-être tu me le feras savoir et puis je donnerai l'adresse à ce moment-là. Mais il y aura certainement moyen de la mettre en MP3 quelque part pour les gens qui ont envie de la réécouter, de la conserver ou autre. Oui.
Oui, est-ce que je dis deux mots sur la question par rapport à la nature?
Voilà.
Oui, c'est qu'il y a un problème particulier par rapport à l'antispécisme, c'est que dès qu'on parle d'animaux, les gens pensent nature. Et beaucoup de gens nous disent, oui, on est d'accord avec vous, nous aussi on est des amis des animaux et de la nature. Et quand on pense à la défense des animaux, on pense souvent défense, par exemple, des espèces en voie de disparition. Et... l'antispécisme, et de façon générale, les gens qui refusent de manger les animaux, c'est-à-dire les gens qui refusent de manger les poules, c'est pas pour éviter la disparition de l'espèce poule, c'est par rapport aux individus poules. Et pour moi, ça, c'est une distinction qui est extrêmement importante, c'est que ce ne sont pas les espèces qui souffrent, ce n'est pas la nature qui souffre, ce sont des individus, et de la même façon que nous sommes des individus, et quand nous souffrons, c'est en tant qu'individu que nous souffrons, et quand nous avons le plaisir dans la vie aussi, parce qu'on parle beaucoup de souffrance, mais il faut parler de plaisir, le plaisir de vivre,
l'insatisfaction. L'individu, bien sûr, a droit à la joie de vivre,
le plaisir. Et les animaux, c'est en tant qu'individu qu'ils ont ces plaisirs de vivre, et donc nous, on défend les animaux en tant qu'individu. Et je crois que cette façon de voir les animaux comme étant des rouages, des pièces dans un rouage de la nature, et aussi la question de la prédation, on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais souvent on défend la consommation de la viande par la défense de la prédation, comme si la nature c'était quelque chose qui nous donnait un ordre, qui nous oblige à faire des choses. On a le droit de manger, de ne pas manger de la viande, de la même façon qu'on a le droit de choisir sa sexualité, que la nature ait voulu, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'il y ait une nature qui veuille quelque chose, mais que la nature ait voulu que nous soyons hétérosexuels ou pas, on a parfaitement le droit d'être homosexuel si c'est ce qui nous fait plaisir. De la même façon, si on constate qu'on peut très bien vivre sans manger les animaux et que ça fait mal aux animaux en tant qu'individu, eh bien, je crois qu'on a l'obligation de cesser de manger les animaux, quelles que soient les choses qu'on peut dire sur un ordre naturel, sur savoir si c'est naturel ou pas. Personnellement, je me fiche de savoir si les choses sont naturelles. Et l'antispécisme, donc, se distingue de façon assez radicale de l'écologie sur ce point-là.
Il y a aussi, tu parles des gens qui disent, mais dans la nature, les animaux se mangent. Et bon, ça me fait toujours sourire parce qu'on dit à la fois, mais nous ne sommes pas comme les animaux, on a le droit de les manger parce que nous, on est différents, et en même temps, on aurait le droit de les manger parce qu'ils font comme ça. Alors, il faut savoir si on fait les choses parce qu'on est différents ou si on doit faire les choses parce qu'ils les font. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Tout à fait.
Je crois qu'on n'a plus de temps pour philosopher sur la question, mais j'espère que c'est une question qui reste ouverte. Vous pouvez d'ailleurs
vous exprimer là-dessus sur le forum au www.radioboomerang.com et je me doute que vous n'y manquerez pas. Je vous dis à mardi prochain de 19 à 20, mais cette émission sera d'ici là rediffusée demain, le mercredi entre 13 et 14 et dimanche entre 9 et 10. Bonne semaine et à très bientôt.
Everybody happy? I have.